Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'autorité du croyant. On a chanté « Je sais qui je suis, je sais ce que je suis en Christ, où je suis en Christ ». L'autorité du croyant. Ce sujet est traité dans la lettre de Paul aux Éphésiens, particulièrement dans les chapitres 1, 2 et 3. L'Épître aux Éphésiens nous enseigne l'autorité qui appartient aux croyants. Elle n'est pas la propriété de quelques élus seulement. Elle est au contraire le patrimoine de chaque enfant de Dieu acquise à la nouvelle naissance. Dans Éphésiens 1, verset 3, je lirai pas mal de passages, mais je les lirai directement, ce n'est pas la peine de les chercher. Nous lisons « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » L'apôtre parle bien ici de l'Église entière et non de quelques privilégiés seulement. Il précise « nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ». C'est le « a » qui prend toute son importance. Cela signifie que toutes ces bénédictions nous ont déjà été acquises. Le Christ a tout accompli. Il ne lui reste plus rien à faire. Toute bénédiction spirituelle nous appartient en lui, en particulier l'autorité dans le nom de Jésus. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Mais si nous l'ignorons ou la comprenons mal, elle ne nous sera d'aucune utilité. Nous pouvons également savoir que nous possédons cette autorité, mais si nous ne la mettons pas en pratique, elle nous sera également inutile. Satan fera tout son possible, par le mensonge et la tromperie, pour que nous ignorions cette vérité. C'est vrai que Satan est le prince du mensonge, et c'est essentiellement par le mensonge qu'il peut nous atteindre. Il sait que sa domination sera anéantie si les chrétiens découvrent et mettent en pratique cette vérité. Jouissant de leurs droits légaux, ils domineront sur lui. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Qu'est-ce que l'autorité ? Le mot grec, souvent traduit par « pouvoir » dans le Nouveau Testament, signifie plutôt « autorité ». Nous en trouvons une illustration dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans ce passage, le mot « pouvoir », traduit du grec, a en réalité le sens d'autorité. D'ailleurs, dans la traduction d'Arbi, une des traductions les plus fidèles à l'original, on peut lire « Je vous ai donné l'autorité de marcher », etc. Qu'entend-on par le terme « autorité » ? On va prendre un exemple. Un agent de police fait la circulation. Il lui suffit de faire un geste, même insignifiant, pour arrêter ou laisser passer les véhicules. Il n'a pas le pouvoir de faire stopper une voiture, encore moins si c'est un camion, car il n'en a pas la force physique. Pourtant, il a l'autorité requise pour le faire. Il l'a reçue du gouvernement dont il est le représentant. L'autorité est le pouvoir délégué. Dans Éphésiens 10, verset 10, nous lisons « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Parfois, nous pensons que Dieu nous exhorte à nous fortifier nous-mêmes. Nous nous efforçons d'être forts, de tenir bon et de maintenir notre propre puissance spirituelle. Pourtant, ce verset ne nous dit nullement de nous affermir nous-mêmes, mais de puiser notre force dans le Seigneur. Quelle serait notre réaction si nous voyons un agent de police essayer de retenir de force une voiture? De toute évidence, il n'en est pas capable. L'agent de police ne se sert pas de sa propre force. Au contraire, il est fort en vertu de l'autorité qui lui a été déléguée. De même, nous pouvons affronter Satan, lever la main et lui ordonner d'arrêter. Exerçons notre autorité dans le nom de Jésus en nous rappelant qu'elle nous a été déléguée et que son efficacité dépend de la puissance de celui qui nous l'a déléguée. Derrière l'autorité du croyant se tient une puissance plus grande que celle de nos ennemis qui sont obligés de reconnaître notre autorité dans le nom de Jésus. Nous lisons dans Jean 1, 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est dans le monde est le Dieu de ce monde. Satan est le chef des principautés, des puissances des ténèbres. Mais celui qui est en vous, qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous lisons aussi dans Matthieu 28, verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Version Darby. Jésus délégua cette autorité à son corps sur terre qui est l'Église. Élevé au ciel, il est la tête de l'Église, alors que nous sommes son corps. Son autorité se perpétue sur terre par l'intermédiaire de l'Église. L'apôtre nous parle de ce transfert d'autorité dans Éphésiens 1, verset 22. Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il ne s'agit pas d'une œuvre qui lui reste à faire. Il l'a d'ores et déjà accomplie. Jésus est assis à la droite du Père, à la place d'autorité par excellence, et nous sommes en lui. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. L'exercice de notre autorité. Nous trouvons les deux versets clés suivants dans le premier et deuxième chapitre d'Éphésiens. Dieu a ressuscité le Christ et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et Dieu nous a ressuscités ensemble. Dans la pensée de Dieu, nous avons été ressuscités en même temps que Jésus. Et nous sommes assis avec lui. C'est notre position actuelle, notre position en esprit. Et nous sommes revêtus de toute l'autorité qui lui appartient pour exécuter son œuvre sur terre. Nous sommes assis avec Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. La parole de Dieu nous exhorte à vaincre le diable. Le premier signe qui accompagne tout croyant est « En mon nom, ils chasseront les démons ». Jésus dit simplement que les croyants auront autorité sur le diable. Ils pourront briser le pouvoir de l'ennemi dans leur propre vie et dans celle des autres. Veillons à ne pas donner accès au diable, ne lui accordons aucune place en nous. Dans le cas contraire, Jésus ne pourra pas agir en notre faveur. Jacques nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Parfois, nous acceptons que le diable nous frustre des bienfaits de Dieu. Dieu veut que nous ne soyons pas sous aucun joug, car il nous a dit de régner dans la vie. Il désire que nous soyons libres de toute forme d'esclavage, nous et nos proches. Il est important que nous apprenions à être élevés à la place que Dieu nous a destinée. L'Église manque trop souvent d'exercer son autorité et se laisse trop facilement vaincre par la peur. Paul nous dit dans Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus domine sur la malédiction, sur la maladie et sur tout ce qui vient du malin. Nous devons méditer ces grandes vérités afin que leur signification profonde pénètre nos cœurs. Une fois enracinées dans nos cœurs, elles porteront du fruit en abondance. Alors l'Esprit de vérité pourra nous élever pour nous permettre de saisir la vraie signification de la révélation de Dieu. Lorsque nous comprendrons ce qui nous appartient en Christ, nous aurons la victoire que Jésus nous a acquise. Le diable fera tout pour nous empêcher de nous en emparer, mais par la foi en Christ, nous serons vainqueurs. Nos armes de guerre. Les croyants doivent se revêtir en tout temps de certaines armes. Nous lisons dans Éphésiens 6, 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il s'ensuit la description de toutes ces armes dans le passage bien connu sur les armes de Dieu. Les différents éléments de l'armure symbolisent certaines attitudes spirituelles que le croyant doit adopter. Revêtu de ses armes, il est protégé et libre d'exercer son autorité. La première arme citée est la ceinture de la vérité, qui représente la compréhension de la parole de Dieu. À l'exemple de la ceinture du soldat, elle tient en place tout le reste de l'armure. La deuxième arme est la cuirasse de la justice. Jésus est notre justice, nous nous revêtons de lui. Elle représente aussi notre obéissance active à la parole de Dieu. Troisièmement, nous sommes chaussés des bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Cette arme parle de l'annonce fidèle de la parole de Dieu. La quatrième arme est le bouclier de la foi. Le bouclier est censé couvrir tout le corps. Il symbolise notre sécurité totale et notre protection complète grâce au sang de Jésus, où aucune puissance ennemie ne peut pénétrer. La cinquième arme est le casque du salut, décrit en 1 Thessaloniciens 5, 8, comme l'espérance du salut. L'espoir et la certitude du salut constitue une manière efficace de protéger notre intelligence à l'heure actuelle où tout nous incite à nous distraire des choses essentielles et à nous détourner de la vérité. Sixièmement, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette description nous montre que la parole de Dieu est une arme offensive, tandis que les autres sont des armes défensives. Le verset 18 rajoute: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Le combat dans la prière peut être inefficace quand nous négligeons de mettre l'armure du chrétien. Une fois revêtus de toutes les armes de Dieu, nous sommes équipés pour le combat. C'est la prière dans l'Esprit qui obtient les résultats escomptés. En conclusion, quand nous nous rendons compte que les épreuves que nous affrontons sont l'œuvre de l'ennemi, nous crions vers Dieu pour qu'il chasse le diable et change nos circonstances. Pourtant, la parole de Dieu nous commande de résister nous-mêmes à l'ennemi. Nous lisons dans Jacques 4, 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » L'autorité nous appartient et la responsabilité de l'exercer nous incombe. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin.